Un rapport publié par le journal Le Figaro et écrit par Georges Malbruno nous apprend qu'Amzi Bichara, qui a fui Israël vers le Qatar après avoir été soupçonné d'avoir aidé le Hezbollah, est devenu le conseiller de l'émir du Qatar et participe activement à la négociation de l'accord de libération pour les otages. Il répond aux questions de Blaise van der Linden. Voici Georges Malbruno.
Georges Malbruno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Alors, vous avez publié un rapport dans le Figaro où on apprend qu'Azmi Bichara, un ancien membre de la Knesset, a participé à la rédaction de l'accord de Paris entre Israël et le Hamas afin de parvenir à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu. Et selon ce rapport, il est un conseiller principal de l'émir qatari Tamim bin Hamad Al Thani. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes l'auteur de ce rapport. Parlez-nous-en.
Alors, Azmi Bichara donc est une figure bien connue en Israël puisque c'est un arabe israélien, enfin palestinien de 48, qui a été élu longtemps à la Knesset et qui ensuite a été expulsé d'Israël sur des accusations de trahison au Hezbollah. Et ensuite, Azmi Bichara a été récupéré par le Qatar et est devenu l'éminence grise diplomatique du nouvel émir à partir de 2013, Cheikh Tamim, et a joué un rôle important au-delà de la relation avec le Hamas, on y viendra, mais lors des révolutions arabes, notamment en Syrie, où le Qatar, vous en souvenez peut-être, était très en pointe aux côtés de la France pour renverser Bachar el-Assad. Et donc il n'y a rien d'extraordinaire que Azmi Bichara, qui occupe toujours cette place très importante même si elle est discrète, de conseiller diplomatique de Cheikh Tamim l'émir, effectivement, a eu un rôle dans la rédaction, a influencé, disons, les dirigeants du Hamas à la fois de Doha et qui sont en lien avec Sinwar à Gaza, la rédaction du document qui a servi de base au document qu'on a appelé document de Paris. C'était fin janvier lorsque le chef de la CIA, du Mossad, ils sont venus à Paris pour négocier avec les services de renseignement égyptiens et qatariens pour lancer les négociations sur cette trêve. Donc voilà, Azmi Bichara, il est à la fois au Qatar qui abrite la direction politique, la branche politique du Hamas, et il est aussi, il connaît très bien la mouvance palestinienne, puisqu'il est arabe israélien, il est palestinien de 48, et donc effectivement une source proche des négociations qui avaient lieu au Caire jusqu'à début mars. Et bien m'a révélé effectivement la participation d'Azmi Bichara comme quelqu'un qui joue un rôle important, et je pense que c'est une bonne chose parce que il connaît à la fois la mentalité israélienne, la société israélienne, et il a une capacité étant au Qatar d'influencer à la fois les dirigeants du Hamas au Qatar et de permettre, il faut l'espérer, que justement ces négociations qui pour l'instant n'ont pas abouti, aboutissent prochainement à une trêve avec la libération d'un certain nombre d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens en Israël.
Vous l'avez mentionné, une bonne partie des dirigeants du Hamas sont au Qatar. Quelles sont ses relations à lui, à Azmi Bichara, avec justement ces dirigeants du Hamas?
Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que on me l'a pas dit et que tout ça est assez confidentiel. Mais on peut imaginer qu'ils échangent puisqu'ils sont voisins, quoi. Je veux dire, lorsque j'ai rencontré Khaled Meshal à Doha, il est dans le quartier diplomatique de la capitale qatarienne, et Azmi Bichara, lui, il est à Doha aussi. Donc voilà, je peux pas vous dire quelle est la nature de la relation entre eux, mais c'est quelqu'un qui, en plus, il est employé par l'émir du Qatar. L'émir du Qatar a une capacité de faire pression sur ses hôtes du Qatar, comme il semblerait qu'il l'ait fait, ce sont des sources en Israël qui l'ont affirmé. Donc, Azmi Bichara, peut être un interlocuteur justement utile dans le cadre de ces négociations et de ces pourparlers, enfin tout ça, de ce dialogue qui a forcément entre Khaled Meshal, Ismaël Haniyeh là-bas, et puis l'ancien ambassadeur aussi du Qatar dans la bande de Gaza, Mohamed El Hamedi, et Hazmi Bchara, qui connaissent ces Palestiniens de longue date. Donc, je pense que ça fait partie des gens que l'émir du Qatar et d'autres actionnent pour faire passer des messages au Qatar, au Hamas, pardon.
Dans votre rapport, vous mentionnez cet accord de Paris sur les otages et le cessez-le-feu. Est-ce qu'on sait où on en est et le Qatar est-il confiant?
Alors, vous avez vu que vendredi, le Hamas a proposé un accord de cessez-le-feu à Israël, qui est un accord, une proposition intéressante dans la mesure quand même où le Hamas a cédé sur un certain nombre d'exigences, en tout cas a montré une certaine flexibilité. C'est un accord en trois phases de 42 jours, et dans la première phase, il y aurait une libération d'une quarantaine d'otages israéliens, en particulier des femmes, y compris des femmes soldates, y compris des personnes âgées et des enfants, contre la libération de environ 600 à 800 détenus palestiniens, sachant que, par exemple, chaque soldate israélienne détenue serait libérée contre 50 prisonniers palestiniens, y compris des prisonniers qui, selon Israël, ont du sang sur les mains. Voilà. Donc, c'est une première phase de 42 jours. À l'issue de cette première phase, le Hamas demande un cessez-le-feu. Vous savez que c'était sa demande immédiate, hein. Il la voulait immédiatement au début des négociations, au début de la première trêve. Là, il la repoussait. C'est dans ce sens-là que je vous disais que Hamas a mis un petit peu d'eau dans son vin, si vous me permettez cette expression, parce que ce que je révèle dans l'article sur la foi d'une source proche des négociations qui ont eu lieu au Caire entre les gens du Hamas, les services de renseignement égyptiens et le Qatar, c'est que Yahya Sinwar, le chef du Hamas, dans la bande de Gaza, qui est caché, traqué par Israël, a fini par prendre conscience de plusieurs choses. Tout d'abord que son peuple souffrait, et la source me dit, dans un de nos échanges, Yahya Sinwar me dit, on peut tenir encore 8 mois, on a suffisamment d'armes et d'hommes, mais en revanche, ce qui nous affaiblit, je le cite, c'est la souffrance des Palestiniens. Donc, Sinwar a pris conscience, effectivement, que ce qui n'était pas son cas au début, où la mort des civils l'importait peu, que là, effectivement, il doit donner quelque chose aux Palestiniens de Gaza, et d'autant plus que il y a eu quand même à certains endroits des contestations de la population à l'encontre du Hamas, et que, eh bien, justement, pour éviter que cette contestation probablement ne s'étende, eh bien, Sinwar est obligé, justement, de encore une fois de se montrer flexible et d'arracher quelque chose, et une trêve, ou en tout cas une première phase de trêve. Et c'est aussi la raison pour laquelle il insiste tant sur les aspects humanitaires, l'entrée de 500 camions, le retour des déplacés qui sont au sud aujourd'hui vers le nord. Donc voilà, donc tout ça s'inscrit dans cette toile de fond. Vous avez vu que Benjamin Netanyahou, dès vendredi soir, a dit « ça n'est pas une proposition acceptable », etc. Mais dans le même temps, il a envoyé David Barnea, le patron du Mossad, négocier, qui se trouve, je crois, aujourd'hui à Doha. Donc voilà, je dirais pas qu'il y a un certain optimisme, mais en tout cas, il y a matière à continuer de négocier pour arriver à une nouvelle trêve, hein, qui permettrait la sortie, la libération d'otages israéliens, et en contrepartie le retour notamment des déplacés palestiniens chez eux dans le nord.
Pour terminer, il y a peu, un dîner a été organisé par le président de la République française, Emmanuel Macron. Il a reçu l'émir du Qatar. Ce dîner a-t-il joué un rôle, ou on était juste sur un dîner de relations entre deux pays qui partagent beaucoup en ce moment?
Écoutez, je n'étais pas au dîner, mais la France a quand même un rôle marginal dans ce qui se passe, hein. La France, oui, a de bonnes relations avec Israël, a de bonnes relations, a de nouvelles bonnes relations avec l'émir du Qatar, mais on n'est pas central. Alors, Non, ceux qui jouent un rôle important, ce sont les États-Unis. Biden appelle de temps à autre l'émir du Qatar. C'est important parce qu'ensuite, l'émir du Qatar a une capacité de pression sur les dirigeants du Hamas qu'il abrite. Hein. Dans la presse israélienne, on faisait état récemment justement de pressions qui ont été exercées par l'émir du Qatar sur ses hôtes du Hamas, à savoir menaces de les expulser, à savoir peut-être un gel d'un certain nombre de leurs avoirs, etc. Donc, si l'émir du Qatar en a la volonté, il peut faire pression et arriver justement à faire en sorte que les gens qui l'abritent du Hamas se montrent plus flexibles, hein, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas beaucoup de cartes entre les mains, il faut bien le dire.
Georges Malbruno, je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci.